En partenariat avec le Printemps de Septembre, Radio Éphémère accueille pour la première fois cette année la radio du bout de la nuit, la radio officielle du festival. Animée par Jean-Yves Joinet et Béatrice Méline, elle permet de découvrir des créations sonores inédites, autant que des discussions avec les artistes des expositions et des soirées nomades. Retrouvez la radio du bout de la nuit sur les ondes de Radio FMR 89.1 MHz. Ou assistez à ces enregistrements en direct le 24 septembre à la Blasserie Le Florida, les 25 et 26 septembre et 2 et 3 octobre à l'École des Beaux-Arts, de 22h à 1h du matin. Radio FMR accueille Radio du bout de la nuit pour le printemps de septembre 2009.
Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 19 septembre 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport moi-même, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h Éphémère, cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici l'orage de grêle que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end...
On va faire comme on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire on cale le disque en direct. Alors tu prends le premier, là, celui que t'as dit. Oh ouais, super.
Pourquoi changer une équipe qui gagne ?
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Il fait un petit peu plus frais que la dernière fois, je crois que hier qu'on a perdu dans les 15 degrés. Mais néanmoins, on va pas se plaindre, au contraire, on est bien au chaud, on est dans les studios et vous écoutez la radio et nous sommes dans vos oreilles. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Que Thomas n'est pas là, il est cloué par une méchante grippe qui s'appelle la famille, quelque part loin, loin, loin de nos studios. Que JB, lui, est cloué par une méchante grippe qui s'appelle le travail, paraît que c'est très fortement contagieux. En tout cas, moi, je l'ai pas en ce moment. Et heureusement, du sport est là, puisque vous l'avez entendu faire l'intro pour une fois. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de news surtout qui sont arrivées. Hein, plein de choses à vous annoncer. Peut-être on va commencer par un magazine. On avait parlé de la centième du psychopathe illustré c'était en mai dernier, excusez-moi. Et ben là, c'est Flic Glacial qui fête son 400e numéro. Et le mensuel d'humour et de bande dessinée a fait très grand. Tellement grand qu'il ne sera pas livré aux abonnés. Pour cause, ils ont dit, on sera le plus grand mensuel de tous les temps en France. Et comment dire ? Il est tellement gigantesque, donc, qui ne sera pas distribué aux abonnés, il faudra l'acheter en kiosque. Il est absolument immense. À tel point que les planches de pas mal d'auteurs sont à l'échelle 1, ce qui est un plaisir vraiment de les découvrir à cette taille-là, et que d'autres, eh ben, ils ont été tellement surpris par cette immensité qu'ils ont décidé d'en faire beaucoup trop. C'est-à-dire, eh ben, il y en aura partout. Alors, je l'ai pas encore consulté. J'ose à peine imaginer ce que seront les fameuses notes de marge de la rédaction. Vous savez, c'est quand ils font leur revue de presse avec les brèves, les petits textes qui collent un peu partout et tout ça. Et ils font une bouffe mensuelle où en fait eh ben ils décident ils rajoutent ce qu'on appelle des culs de lampe, c'est-à-dire ces dessins que l'on met dans les marges ou que l'on met dans les endroits où il y a un petit peu d'espace et généralement ça explose. Là, j'ose même pas imaginer ce que cela doit être. Surtout qu'en général, plus le format est grand, plus le bord perdu peut être généreux. Donc là, allez savoir. Peut-être qu'ils ont gardé la taille normale et peut-être que justement tout le reste, ça n'est que du dessin de marge. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Mais à mon avis, ça va être un moment assez anthologique. Alors, point de vue format, je ne sais pas, mais je crois que la dernière fois qu'on a vu un journal de cette taille dans la bande dessinée, si je ne me trompe pas, c'était pour le Erwal, quand il est mort. Ils avaient fait un numéro unique, immense, cartonné, qui était trouvable que à Angoulême, avec tous ses amis de la rédaction, entre autres de Fluide. Donc je ne sais pas s'il y a eu d'autres délires. Après, je pense pas qu'ils s'amuseraient à mettre le plus grand magazine de tous les temps, sachant que dedans il y a quand même des spécialistes de la presse écrite qui sont dedans. Hein. On pense notamment à Fluide. On l'a interviewé en plus. cet homme politique, j'ai oublié. Scénariste spécialiste de la bande dessinée, des marges. Enfin, lui, justement, c'est un spécialiste de la presse écrite.
Et un tintinologue reconnu, c'est ça, quoi?
Non, c'était non, un autre.
Pas c'est pas Albert Algou?
Non, c'est pas Albert Algou. Non, j'ai dit homme politique. Il est sur la tête de liste des Verts. Ah, j'ai oublié. Bon, bah, tant pis. Voilà. Bref.
Ben Amias.
Non, beaucoup plus connu que ça. Et voilà, encore un trou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça m'apprendra à faire les papiers à l'arrache dans la rue. Le flux glacier numéro 400 est en kiosque et je l'ai complètement oublié. Donc voilà, je vous rassure, il y aura d'autres trous tout au cours de cette émission. Et ce gag-là, lui, par contre, n'était pas absolument pas prévu. Voilà, c'était le legal disclaimer. Continue les news du sport. Si je te dis Jamie Hewlett,
Gorillaz.
Bien, très bien. Mais avant d'avoir créé les personnages de Gorillaz,
la prononciation anglaise, dont je suis coutumier quand je t'écoute prononcer les anglais.
Hewlett, excuse-moi, Jamie Hewlett. Donc c'est lui qui a créé les personnages, le character design des personnages fictifs du groupe Gorillaz. Mais avant ça, il est dessinateur de BD.
Voilà, oui. Mais pas que.
Et quelle est son œuvre la plus connue?
Alors là, tu me poses une colle, je le savais, mais je crois que c'est sorti en plus dans la revue anglaise de science-fiction 2000 ID.
Exactement.
Mais alors, le titre, laisse tomber. Laisse tomber, quoi.
Tangirl.
Tangirl, bien sûr. Aïe.
Tangirl, Ankama peut être fier parce qu'ils tonnent, ils sont contents, ils sautent partout. L'attaché de presse, il m'a envoyé 4 fois le mail. Tout ça pour nous annoncer avec force trompette et coup de klaxon qu'ils vont éditer Tangirl en français. C'est une, ce n'est pas une première, puisqu'il y a eu une première traduction qui avait été faite. Ben pour oui. Un unique tome chez Vendouest, c'était en 96 à l'occasion de la sortie du film.
Ça
a été adapté au cinéma avec Ice Cube dans le rôle d'un kangourou.
Non, Ice-T.
Ice-T, pardon.
Non, c'est Ice-T.
Oh merde, je les confonds toujours les deux. Enfin bon, bref, il est méconnaissable.
Non, mais très bien, hein, excellent. Hein. Excellent le
délirant.
Film. Très bien.
Hein, délirant, ouais. Il a... Avec des extraits de la bande dessinée d'ailleurs, justement parce qu'il y a des trucs qui passent pas et que la bande dessinée est complètement déjantée. Et donc l'éditeur britannique Tangirl Titan Book fête les 20 ans de la série dans une réédition spéciale des 3 premiers tomes scénarisés par Alan Martin et dessinés par Jamie Hewlett. C'est cette collection qui sera traduite par Ankama. Le premier tome devrait arriver dans le label 619 février 2010. Va falloir calmer sa joie d'ici là. Donc voilà, donc je ne sais pas si ce sera une édition complète qui suivra. En tout cas, on aura déjà 3 tomes qui sortiront. Ce sera plus que la première édition de 196 pages, hein, si je me trompe. Chez Mandouet, c'était au format comics. Vous savez ce qu'ils appelaient le format Akira chez Glénat. Un format cartonné. Peut-être que on en aura beaucoup plus. Peut-être que finalement, ben, ça va être dans, en fascicule. Je n'en sais rien pour l'instant. Je ne saurais vous dire. En tout cas, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Je vous ai parlé du livre Looking for Calvin Hobbes, The Unconventional Story of Bill Watterson and His Revolutionary Comic Strip. Une enquête de Nevin Martel aux trousses de l'auteur de cette bande dessinée d'anthologie. Calvin, gamin de 8 ans, absolument infernal, accompagné de son tigre mangeur de thon. C'est vraiment une référence culturelle absolument immense. Et Nevin Martel avait essayé d'obtenir une interview de l'auteur. Alors le bouquin sort le 5 octobre aux États-Unis chez Continuum Press, devrait arriver normalement en décembre en Angleterre, du moins ça c'est ce qui a annoncé, mais à mon avis je crois que c'est une erreur du distributeur. Pas de version française prévue à ce jour, on verra peut-être après, mais en tout cas on peut déjà le précommander sur les sites de vente en ligne qui commencent par un A. Il sera en vente à $25 environ.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. De toute façon si tu vas chez A, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème, il est vendu à 22€, mais il a annoncé disponibilité 31 décembre 2009, à mon avis c'est une erreur. Je pense qu'on peut...
Enfin moi ça fait quand même un mois que j'ai commandé un disque, tout j'attends toujours. Merci les gars, hein.
On verra, en tout cas vous pouvez passer sur la version américaine pour le précommander, il n'y aura pas de souci. Looking for Calvin and Hobbes, ce qui est vraiment l'un des comic strips les plus délirants jamais sortis dans la bande dessinée américaine sur ces 30 dernières années. Je pense que ce sera vraiment un très 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 beau cadeau pour la Noël. En anglais, c'est uniquement du textuel. Il a interviewé Jim Davis, l'auteur de Garfield. Il a interviewé pratiquement tous les grands auteurs de comic strip actuels, en leur demandant justement Calvin et Hobbes, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qui vous a influencé, qu'est-ce qu'il a plus que vous, ou vous, qu'est-ce que vous avez de plus que lui. Il y a un peu qui ont répondu à ce côté-là. Nous, on a chroniqué grâce au premier chapitre qui nous a été aimablement fourni par l'auteur. On espère, je n'en sais rien pour l'instant, mais on espère vraiment que ça va être du coup repris par un éditeur français. Reste à voir. Peut-être chez Hors Collection, on n'en sait rien. Alors, je vous rappelle, chers amis qui habitaient en France et qui nous écoutaient en direct, que la loi d'OPI numéro 2 et le décret de loi numéro 3. La loi Adopi 2 a été votée devant l'Assemblée avec une majorité un petit peu plus courte que la précédente. C'est dire si même dans les rangs de l'UMP 1, on commence à en avoir marre. Faut dire que jamais une loi n'a été autant poussée dans l'histoire de la République française. C'est-à-dire franchement ils y ont été, mais été pour une loi qui sera très probablement inapplicable et probablement retoquée devant la Cour européenne de justice. On n'en sait rien pour l'instant. Mais moi, je vous en fais le pronostic. Mais bref, on avait fait une consultation en prévision de cette loi. On avait fait sur le site supplementweekend.fr. Si vous inscriviez, vous aviez le droit de voter à des top 5. Il y en aura d'autres qui seront encore à écrire. Voilà. Mais en tout cas, on avait dit, on sortira ça à la rentrée, puisque c'est à ce moment-là que la loi passera. Il s'agit des flingues que vous auriez du mal à justifier comment vous les avez vus, du moins légalement. Alors, on avait sélectionné 10 chefs-d'œuvre qui, il faut bien l'avouer, la plupart d'entre nous ont du mal à dire « Ouais, on l'a vu en salle !» Mon cul, oui. On va commencer avec le fond du tableau, le fond du classement, comme d'habitude, dans l'émission, avec Global Frequency, qui était une adaptation en série télé du comics de Warren Ellis, qui n'a jamais été diffusé. Pourtant, le pilote a eu des commentaires plus qu'élogieux, mais Warner l'a jamais diffusé. Série jamais montrée la plus populaire. Mais comment est-ce qu'elle a été vue ? Tiens donc. Et je me rappelle qu'à l'époque, le réalisateur avait dit « Je peux pas cautionner le piratage, mais c'est vrai que si on parle de la série, peut-être qu'elle sera produite un jour. » Ça fait que 4 ans qu'on attend. Et vu Damnatus, un fan film en hommage à l'univers de jeux de guerre sur plateau de Wargame Warhammer, qui a dû être interdit par Games Workshop pour cause de stupidité législative. Si jamais ils autorisaient une exploitation bénévole et non financière de leur copyright, et ben leur copyright devenait caduque et n'importe qui pouvait faire des jeux dans les univers développés par Games Workshop, c'est-à-dire Warhammer, Warhammer 40 000, mais aussi par exemple Blood Bowl, tous ces wargames et autres univers comme Space Hulk. Là effectivement il y aurait eu problème. En 7 non en 8 excuse-moi je compte mal Dunyaki Kotaran Adam, on en a parlé il y a 2 semaines sur cette antenne en direct par téléphone, c'est le fameux Turkish Star Wars. C'est un film qui est à base de stock shoot piqué à Star Wars et la bande son de Indiana Jones. Comment dire, on peut le voir parfois sur une télé turque à l'heure où les avocats des ayants droit d'Hollywood dorment du sommeil du juste. Alors je vous laisse deviner pourquoi, peut-être que vous pouvez le voir sur internet, sur Google Vidéo par exemple, mais il y a vraiment un problème effectivement pour pouvoir le voir légalement. En 7, Highlander The Source, le seul film de la franchise à ne pas avoir eu l'honneur des salles obscures faute de distributeurs. Ceux-ci ont boudé le film lors du marché du film à Cannes en 2008. Est-ce que c'est l'absence de Christophe Lambert ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est sorti en DVD à cause d'une erreur du distributeur russe. C'est vrai, on a le DVD. Il ne fut mis en vente que un jour. En fait, 3 jours suivant les magasins qu'ils n'ont pas retiré de suite. Et ça a été beaucoup trop tard. Bref, le film a été spoilé. Si on peut appeler ça un film. En 6, du moins... Pour les auditeurs de notre émission, This film is not yet rated. Ce film n'a jamais eu droit à un classement pour le public. Donc, pas de visa d'exploitation, pas le droit d'être projeté sur grand écran. Même la MPA, c'est-à-dire la grande, le grand lobby et fédération des universités du cinéma américain, l'a illégalement piraté pour le regarder. C'est quand même un comble, parce que ce film enquête justement sur ce classement qui semble être construit sur d'obscurs critères. Il faut savoir que le MPA Rated, que l'on voit en vert au début des bandes annonces, c'est dans les pays démocratiques, c'est le seul classement qui est établi par des personnes dont on ne peut avoir légalement le nom. Donc il y a un problème. C'est justement toute l'histoire de cette enquête qui a été faite par un réalisateur. Et après, eh ben, il y a la suite, il y a le fameux classement, qui dit classement dit top. Et si, comme il en reste 5... Qui dit 5 dit hey
le top 5 numéro 5.
En 5ème, Evangelion 1.0 You Are Not Alone. C'est une sortie technique pour un film d'amateur majeur adapté d'une des séries animées et Neo Genesis Evangelion qui a révolutionné le milieu dans les années 90, mais ne s'adressant qu'à des mordus de science-fiction et à des otaku, pas très porteurs donc. Sauf que vous êtes quand même un sacré nombre à l'avoir vu, à l'avoir annoncé sur le site. Pourtant, les salles les plus remplies en France ont attiré dans les 200 spectateurs et une projection unique par ville, dont celle à Toulouse. Je veux pas dire, mais nous on y était, d'autres je ne sais pas. Malédiction à l'étourdi qui aurait loupé cette séance.
Numéro 4.
Star Wars The Holiday Special est en 4ème position. Ça n'a été diffusé que 2 fois. Une fois sur CBS pour la Noël 78 et sur TF1 en France à Pâques en 79. La qualité de ce téléfilm produit pendant la production de l'Empire Contre-Attaque est la raison de l'acharnement personnel de George Lucas. Celui-ci a racheté et détruit tous les enregistrements existants. C'est-à-dire, il est allé voir tous les amateurs, il a dit « Je vous rachète votre VHS, dites-moi votre prix. » Et une fois qu'il a racheté, il a consciencieusement passé ça au pilon. Manque de bol, il a presque tous racheté. Les copies circulent, de mauvaise qualité certes. Pensez, c'est des VHS quand même qui ont 30 ans. Mais pas autant que le téléfilm lui-même. Qui est mais impensable.
Numéro 3.
Dragon Ball Evolution. Alors oui, je sais, il est sorti le 1er avril dernier, il est sorti avec un matraquage publicitaire immense, avec une distribution immense, au moins 400 salles en France. Mais il faut bien l'avouer, que ce film qui se voulait nanar mais qui réussit à liguer l'intégralité des fans et des profanes contre lui, et ben les seuls qui ne l'ont pas descendu l'ont fait pour se moquer. C'était Thomas le seul.
Thomas, ouais, ouais.
Cette œuvre de l'esprit était sortie un 1er avril. Avouez que l'avoir vu au cinéma, c'est ne pas avoir d'amour propre. Alors l'excuse de la place offerte ne compte pas. Mais il y a quand même qui l'ont vu. Alors je ne sais pas par quel masochisme, parce que quand même ils étaient prévenus depuis un mois que ça allait être une immense merde.
Oui, oui, mais il y a quand même Chow Yun-Fat dedans, quoi.
Je ne veux pas savoir, c'est quand même une merde.
Numéro 2.
Derrick contre Superman, alias le grand détournement. La 5 se meurt, on est en 92, et Canal+ s'en moque dans un dernier hommage avec les séries diffusées. La participation est doubleurs originaux dans des dialogues très nuls, mais produits par l'équipe qui fait actuellement le Sacartoon sur Canal+. C'est-à-dire que c'est du détournement d'image avec du dialogue réécrit, où on voit quand même Derrick qui traite de sale communiste, qui traite Berlusconi de sale capitaliste. Enfin, c'est un truc complètement délirant, mais ça n'a été diffusé qu'une fois. Alors, comment vous l'avez pu le voir? Je ne sais pas. Il va falloir me l'expliquer.
Numéro
1. Et ben c'est la suite du premier grand détournement, c'est la classe américaine. Canal+ complote un deuxième volet. En fait, c'est un contrat Léonin avec Warner Bros. Comme quoi ils vont faire un hommage du cinéma avec le fonds de catalogue de Warner Bros. Et Warner Bros a dit allez-y, remontez-le, faites un documentaire si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Quel monde de petits farceurs. Ils en ont fait un délire absolument incroyable, où c'est l'histoire de George Rabbit Ball, l'homme le plus classe du monde, qui meurt en disant monde de merde. Et à partir de là, eh ben on envoie les journalistes qui ont dévoilé l'affaire des écoutes illégales du Watergate, pour savoir ce que veut dire monde de merde. Ça ne sera diffusé que deux fois, une fois sur Canal+ à la Noël en 92 et une fois en 2004 sur la chaîne Festival avant qu'elle devienne France 4, mais à l'époque elle était que sur le câble et encore que sur le satellite. Et il y a eu une diffusion sur grand écran récemment, cette année, c'était à la Cinémathèque de Paris. Pourtant, tout le monde cite les dialogues. Alors comment ça se fait que vous l'ayez tous vu ? Allez savoir. En tout cas, c'était un classement qui a été fait par les auditeurs du Supplément Weekend, et on les en remercie sur le site supplementweekend.fr. Moi, je serais curieux quand même de savoir si... Je ne sais pas. Moi, j'ai juste la liste des gens qui sont inscrits et à peu près le nombre de votants. Mais après, statistiquement, j'ai tout noyé pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème juridique. N'en sais rien, et puis voilà. On verra l'application à la loi Adopi. C'est bien beau ça, en pleine grippe H1N1, on va couper des accès internet. Alors si jamais vous êtes professionnel du web, une entreprise, une association, un parti politique, une collectivité territoriale, un professionnel du web en indépendant, un chômeur à la recherche d'un emploi, un malade à mobilité très réduite, théoriquement, on peut pas vous couper Internet. Si en plus vous êtes en zone dégroupée, on aura du mal à vous couper Internet sans vous couper le téléphone en même temps. Enfin bref, je sais pas si vous imaginez le bordel législatif que c'est, parce que normalement, y a quand même l'égalité de traitement. Moi, je crois que Frédéric Mitterrand, il s'est fait avoir, hein. Et bon, Frédéric Mitterrand se vengera ce soir. Il sera sur France 5 avec une soirée intégralement à sa gloire où il ne fera que parler, puisqu'il y aura un documentaire sur la Villa Médicis. Documentaire qu'il a produit, dont il fait la voix off. Et que, quand même, je le rappelle, en a été le président. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Divin, j'ai pas commencé sorti bande dessinée. Oh, je suis désolé, je parle, surtout pour dire des conneries qui vous intéressent pas. Et on va commencer les sorties bande dessinée du sport le tient en main avec le nouveau Nicolas Junker. C'est pas un inconnu. On en a régulièrement parlé dans le Supplément Weekend. C'est un dessinateur qu'on estime, dessinateur et scénariste, un auteur complet qu'on estime beaucoup. Sa nouvelle série sort toujours dans le label Très Étrange, sauf que le label Très Étrange n'est plus un label indépendant, ne fait plus partie de Milan Édition, mais est désormais rattaché au groupe Glénat, où c'est une entité indépendante, et avec, on espère, les moyens qu'il le mérite. Immergé tome 1, Gunter Pulse. Alors imaginez une boîte de conserve. Une ridicule boîte de conserve dans laquelle on a entassé des dizaines d'hommes pour traverser les océans et surtout pour faire la guerre. Cette invention, c'est le sous-marin. Imaginé lors de la guerre de sécession, mise en pratique lors de la Grande Guerre, et c'est dans l'un de ces engins que nous allons embarquer. Dans l'exiguïté, la promiscuité, le boucan, l'atmosphère viciée, l'ambiance lourde. Car mettez 19 hommes dans un espace ridicule, sans pouvoir en sortir pendant des mois, il n'y aura pas que le pain qui sera pourri. C'est le principe de la série Immergée de Nicolas Junker. Prendre un sous-marin de la marine allemande en 1939 et raconter dans chaque album le destin d'un des sous-mariniers. Dans ce premier tome, c'est l'histoire de Gunter Pulse qui nous est contée. Il a commencé sa carrière de marin pendant la Grande Guerre, justement, à travailler dans la marine marchande, puis a rejoint la marine du Reich en 1928. À terre, il vit avec sa mère, à Cariat. Il n'a qu'un seul ami marin, lui aussi, qu'il ne croise presque jamais, toujours embarqué sur les cargos à l'autre bout du monde. Bref, il n'est pas sûr de préférer la terre ferme à son poste de maître dieseliste. Car c'est un spécialiste de la maintenance mécanique. Ben oui, il faut des très grands moteurs quand même pour faire avancer ces grosses boîtes de conserve. Alors il connaît le moindre soupape à son bruit et fera tout pour maintenir en ordre de marche ces moteurs gigantesques. Sinon, on est coincé au fond de l'eau. Et finalement, discuter avec ces mécaniques, c'est nettement plus intéressant que les ragots de 19 mecs dans une machine infernale. Le prestige de l'uniforme de la marine impériale. Que des bobards quand on se jauge en fonction de son origine familiale, de sa ville, de sa religion, ou de ses opinions pro-nazis ou non. La hiérarchie en prend souvent pour son grade. Gunter est un gars bourru pour qui tous ces bruits de chiottes ont tendance à taper sur le système. Heureusement, son contrat avec la marine allemande se termine en octobre. Sauf si une guerre se déclare. Graphiquement, la patte de Nicolas Junker s'est noircie pour mieux rendre l'obscurité et la crasse de ce navire militaire. Et à bien lire l'album, on imagine qu'il s'est longuement documenté pour construire son univers, ses personnages et ses contextes. Nicolas Junker, Immergé, le tome 1 s'appelle Gunter Pulse. Et c'est dans le label Très Étrange. Imiri Sakabashira est un auteur underground japonais qui publie dans une revue extrêmement célèbre là-bas, dont on a déjà souvent parlé. Et son œuvre vient d'arriver en France. Ça commence avec Neko Kappa. C'est aux éditions IM Show, qui édite pas mal de mangas, justement borderline, d'excellente facture et avec beaucoup de passion. Alors, un petit cours rapide de japonais. Neko, c'est le chat. Et Kappa, le Kappa, c'est un démon. Oui, mais attendez, c'est un démon chat, il est gentil. Le genre à bien vouloir goûter quelques spécialités culinaires comme le foie braisé de salariman ou contempler des mille et une merveilles de l'enfer. Bref, franchement, un méchant démon, mais plutôt le genre à être dans son coin, voire parfois se faire naïvement rouler. Car l'enfer n'est pas une mare de lave en feu où l'on torture les esprits des hommes et des femmes qui ont péché selon les croyances judéo-chrétiennes. Non, pas du tout. Là, c'est plutôt une sorte de cité. Comme toutes les cités, il y a ses pièges, il y a sa faune, sa flore. Par exemple, dans les usines, il faut beaucoup se méfier des machines outils qui dévorent les ouvriers. Ah ben oui. Ou encore les geishas qui sont des serpents qui se repaissent des hommes beaucoup trop riches. Mais il existe mille merveilles fabuleuses, comme la naissance des automobiles, les danseuses, les voyages en bateau-bus. Neko Paka vit dans un monde, dans une dimension fantastique, croisement doudingue, entre l'enfer tel qu'il a été peint par Jérôme Bosch, ou encore celui qui a été écrit dans les nouvelles de Dino Buzzati. Un univers totalement surréaliste où la fascination peut à tout moment se muer en piège fatal. Meneko Kappa vit très bien. Comme la plupart des précautions élémentaires, il les connaît. Et il sera notre guide dans cet univers où se mélangent références de la culture pop, musique, cinéma, télévision, manga, comme les canons traditionnels de la culture japonaise. Graphiquement, cette BD est dense, riche, oscillant entre le dessin naïf, faussement enfantin et l'horrifique jetonien. Du Cthulhu partout. Les références religieuses sont surtout animistes, bien peu présentes à notre regard occidental. Comme pour Buzzati, que j'ai cité tout à l'heure, on sent bien que Imiri Sakabashira a surtout fait des métaphores avec la jungle urbaine, l'homme ayant cyniquement forgé son propre enfer. Son œuvre purement onirique est un voyage dans un monde de merveilles et de dangers. Le premier album donne envie d'en connaître plus. IMHO annonce dans le dossier de presse déjà que Cornelius prévoit un autre album de ce conteur délirant. Neko Kappa, c'est de Imiri Sakabashira et c'est aux éditions IMHO. Et il est 12h30 exactement sur Poubelle des Radios, pile à temps pour, ma foi, pour les publicités.
Du 12 au 20 septembre 2009, c'est la 22e édition du Festival de rue de Ramonville.
Hé, hey, Seigneur!
La thématique pour cette 22e édition, c'est un monde presque parfait. Un monde fait de bras cassés, de poètes du quotidien, que l'on qualifie bien souvent de non productifs, d'images que nous espérons fortes, dénonciatrices ou ludiques sur ce monde rêvé parfait. Seront présents pendant ces 8 jours de fête totalement gratuites le collectif Mix Art Miris, Voiture Colère, La Friture Moderne, Les Requins Marteaux, Béga Theater Company, Compagnie de l'Autre et tant d'autres. La 22e édition du Festival de rue de Ramonville du 12 au 20 septembre sur les sites de Toulouse, Pouze, Labège et Bazièges. En partenariat avec Radio FMR.
Voilà, et on a annoncé un direct tout à l'heure et en fait donc j'apprends qu'il n'y a pas de direct cet après-midi. Voilà, une petite erreur de ma part. FMR. Allez, une petite coupure musicale, Claire and the Reason, Sanctuary Man, c'est extrait de son album The Movie.
You told me about it.
Clown, The Reason, Science Fiction Man, c'est le supplément week-end sur Radio Éphémère. Et du sport m'a promis du lourd, du gras, du velu. J'espère bien, c'est la partie comics.
Que dirais-je du scrullesque?
Oh non.
Si, si, t'en fais pas, c'est la fin. C'est la fin carrément. Alors dans le numéro 23 de Marvel Heroes, quand tu l'ouvres, généralement, il y a toujours... sur la première page dans les épisodes précédents hein, pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé pour les gens qui peut-être achètent pour la première fois le comic et ça nous dit carrément bon ben alors si vous avez lu ce qui s'est passé dans le dernier numéro de Secret Invasion vous savez que et je me dis non je savais pas c'est con alors obligé d'acheter le dernier numéro de Secret Invasion qui était donc le truc un petit peu à part sorti, c'est-à-dire que dans toutes les éditions, toute cette année, dans toutes les éditions Marvel chez Panini Comics, c'était bien entendu la Secret Invasion, c'est-à-dire les Skrulls qui font un retour sur Terre hein, parce qu'ils ont envie d'envahir la Terre. On va apprendre que en fait, ce n'est pas l'ensemble des Skrulls, mais une petite faction, enfin une grosse faction quand même de Skrulls, hein, dirigée par une princesse un petit peu rebelle. Et qui est un petit peu azimuté, on va dire. Même
bonjour, je suis la princesse rebelle et cette fois-ci, c'est pas moi qui me laisse capturer. Moi, même, je suis juste même, azimuté.
Même
je suis
franchement, coupé. Franchement, ouais. Complètement starbé, hein, qui s'est dit OK, idéologiquement, on a des choses à faire, mais qu'on peut pas le faire sur notre planète. On va aller sur Terre, on les dégomme tous et comme ça, on aura la place pour faire ce qu'on a envie de faire. Et eux, les Terriens, sont pas au courant, bien entendu, hein, super-héros et tout le reste.
Je ça, doute c'est clair. Qu'ils soient d'accord, d'ailleurs.
Enfin, ils sont au courant, ils vont l'apprendre, justement, dans le dernier numéro de Secret Invasion, où tout se règle, finalement, relativement bien. Un gros baston final, bien entendu, avec l'ensemble des super-héros, hein, Thor, Wolverine, toute la bande, les Vengeurs. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que on nous avait dit que sur la fin de Secret Invasion, eh bien, un personnage majeur, un super-héros majeur, allait mourir, allait disparaître de l'univers Marvel. Bon, vous allez me dire, tu vas me dire, pour combien de temps? Parce que ils sont en légion quand même à être morts et à être revenus
la maison des idées toujours la même.
Voilà. Alors là, c'est quand même du lourd parce que c'est quand même scénarisé par Brian Michael Bendis
Bendis.
Oui, qui est depuis le début, le maître d'œuvre, on va dire, de la Secret Invasion, aidé bien entendu par d'autres scénaristes. Les dessins pour cette Secret Invasion chapitre 8, donc le dernier, sont de Lainil Francis Yu. Donc bien, j'aime bien ce genre de dessin.
Ouais, quand il a le temps de dessiner, il est capable de faire des trucs fabuleux.
Et là, on apprend qu'il meurt, en fait. Et en fait, ce personnage meurt pour sauver, justement, le reste de la Terre. C'est-à-dire pour arriver à une extinction finale de l'attaque des Skrulls. Et parce qu'il doit se sacrifier, parce que il a été contaminé par un espèce de virus qui normalement devait détruire l'ensemble de la Terre, mais en même temps, il développait une autre arme qui va permettre, en explosant, d'éliminer tous les Skrulls, mais de se sacrifier. Et donc, on peut le dire, c'est la femme guêpe. Donc un des membres fondateurs des Vengeurs.
Oui, mais alors pas le plus connu.
Si, quand même, parce que
c'est non, un toi.
Des... Oui, mais non, mais c'est un des membres fondateurs. C'est le seul membre fondateur féminin des Vengeurs historiques. Alors donc quand même, c'est quelqu'un d'assez important. Et donc après la fin de cette Secret Invasion et donc le sacrifice de Janet Van Dyne, c'est son nom civil. Eh bien, dans le Marvel Heroes, on ramasse les morceaux et on essaye de faire notre deuil. Alors déjà une première partie qui est consacrée à ce qui va peut-être suivre et ce qui va être la résurrection d'un personnage qui, juste avant la Secret Invasion, pendant la Civil War, se fait descendre, Captain America. Alors tout au long de cette année passée, on suppute qu'il y aurait peut-être un certain Tony Stark derrière cela. hein, parce que Captain America faisait partie de la bande de ceux qui voulaient ne pas se faire enregistrer lors du recensement suite à la guerre civile. Et donc Captain America étant le leader de ses opposants à cette guerre de recensement, à ce recensement, prend une balle, on va dire, plus ou moins perdue. On ne sait pas qui tire sur Captain America, qui fait mourir Captain America, mais bon, on suppute que peut-être Tony Stark est quand même un petit peu derrière, parce que Tony Stark, en tant que directeur du SHIELD, est quand même un petit peu partout, hein, un petit peu la main partout, et aime bien diriger tout ce qui se passe, aime bien commander tout ce qui se passe. Et donc on assiste, par la grâce de Hank Pym d'ailleurs, c'est-à-dire le mec de la femme guêpe, qui s'est trouvé une nouvelle femme guêpe, ça c'est assez rigolo, hein, qui a des traits complètement différents d'ailleurs, quoi, qui est un petit peu plus bronzé, on va dire. Hank Pym qui fait son deuil, donc il va y avoir l'enterrement donc de la femme guêpe et tout, et un premier affrontement verbal, parce que bon, ils sont tous là, ils sont tous réunis lors de l'enterrement, ça se passe dans une grande cathédrale et tout, c'est très solennel, tout le monde en costard noir, cravate noire et tout, vraiment en civil, et ça commence à péter, quoi, au niveau de ouais, salaud, c'est toi, c'est à cause de toi que c'est arrivé, tout ça et tout, Hank Pym, il a bien l'air décidé de vouloir faire la vérité sur ce qui est arrivé à Captain America, et indirectement, on va dire, hein, ce qui est plus ou moins arrivé à la femme guêpe, parce que si elle a chopé ce virus de la part des Skrulls et tout, c'est parce que elle avait été envoyée plus ou moins en mission suicide avant de se faire injecter cette espèce de virus destructeur. Donc, elle s'est fait envoyer en mission suicide par qui ? Par un certain directeur du SHIELD, justement. Donc ça commence à faire beaucoup pour Tony Stark, qui en prend vraiment plein la gueule. Et il en prend encore plus plein la gueule, parce que lors des derniers jours de l'invasion, on se rend compte que l'ensemble des forces sont unies contre les Skrulls, y compris les Thunderbolts, ces super vilains qui ont été réunis par un certain super vilain, le super vilain parmi ceux qui sont les plus connus. J'ai nommé Norman Osborn, le bouffon vert, bien entendu. Mmh. Et le bouffon vert, Norman Osborn, va tout faire pour se retrouver sur le devant de l'affiche, dans la bataille finale, où il dégomme le restant des Skrulls existants sur Terre. Et donc, ça va passer à la télé, et tous les humains vont pouvoir voir que c'est Norman Osborn, en fait, qui, a sauvé la Terre des Skrulls. Et de ce fait, ce qui va se passer, c'est que le président des États-Unis va congédier Tony Stark de son poste de directeur du SHIELD.
Oh, mais là tu dévoiles tout.
Et va remplacer ce Tony Stark par Norman Osborn.
Là tu dévoiles tout.
Et là ça va,
c'est salaud.
Ça va aller jusqu'à ce qui va être la prochaine grosse saga de chez Marvel, à savoir le règne du mal, The Dark Reign en anglais. Car l'ensemble des forces vives de la nation, on va dire des nations, vont être dirigées par un certain Norman Osborn. Tout ça, on l'a dans Marvel Heroes, donc que ce soit dans les Puissants Vengeurs ou dans les Puissants Vengeurs, les Vengeurs, l'initiative s'attarde encore un petit peu sur la bataille finale du côté de l'initiative et la résolution de qui était vraiment Skrull à l'intérieur des Vengeurs initiative. Et il s'avère que c'était le chef de l'initiative, le pourpoint jaune, qui était un Skrull également infiltré. On a également les deux histoires de Hulk. Alors le Hulk vert qui lui est toujours à Las Vegas en train de chasser les Wendigo et de se faire emmerder par Sentry et Miss Marvel. Et l'autre Hulk, le Hulk rouge, Hulk, c'est-à-dire Red Hulk, qui lui continue son fight avec la Légion féminine. Alors il n'y a que des nanas, c'est excellent, hein. Il y a Tundra, il y a Miss Hulk bien entendu, et on en voit apparaître d'autres, il y a la Valkyrie aussi, et on en voit apparaître d'autres... sur la fin, quoi. Et là, je peux vous dire que on s'attendait à ce que ce soit à la fin, hein, parce que en conclusion, le mois prochain, c'était dans le Marvel Heroes précédent, le numéro 22. Et là, on nous redit conclusion le mois prochain. Et là, il y a d'autres nanas qui se ramènent, dont une certaine nana qui est habillée en bleu et qui a un 4 sur le truc, sur le. Vous voyez de qui je vais parler ? Ok, Miss Richards. Du côté de Thor, c'est le retour aux affaires de Straczynski et de Quapel. Avec toujours la suite de la saga, une histoire entièrement consacrée à Loki, le frère de Thor. Thor n'apparaît pas du tout dans cette histoire, mais on suit plus ou moins l'histoire de Loki. Loki qui va essayer de remonter dans le temps, hein, pour changer sa destinée par rapport à pas sa naissance, mais par rapport à son jeune âge et des événements qui sont survenus durant son jeune âge et qui l'ont fait plus ou moins devenir ce qu'il est, hein, c'est-à-dire l'être fourbe,
un traître à la nation,
un traître qui cherche ben là carrément plus ou moins à dégommer son propre père. Enfin, tout ça c'est dans le numéro 23 de Marvel Heroes.
Tu en dévoiles vraiment beaucoup là.
Ouais, mais bon.
T'aurais pas un truc à me cacher là ?
Il y a tout le plaisir de la lecture et le.
Ouais, mais là tu dévoiles tout.
Le plaisir du graphisme.
Attends, hein, j'ai quasiment rien dit moi de mon côté sur le nouveau bouquin de Junker.
Le graphisme, oui, non, graphisme est quand même. C'est ça qui terrible, fait. Terrible quoi. Il y a pas de problème et il y a une espèce de petit une petite double page qui est vraiment très sympathique dans le Secret Invasion. La dernière double page hein, qui nous montre l'ensemble des super-héros quoi sur une double page, mais version Skrull. Alors tout ça donc c'est en vente dans les bonnes librairies, enfin dans les chez vos bouquiniers favoris, hein, y a pas de problème. De toute façon jusqu'à la fin du mois.
Je crois que la culture française aura beau lutter contre le piratage, une chose contre laquelle elle n'a pas encore prévu de loi, c'est la disparition physique. C'est triste, hein. Les grands chanteurs qui nous quittent comme ça.
Eh ouais.
Herbert Léonard et tout le reste.
Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. On attaque la télé si tu veux.
D'accord, donc ça après.
Non, parce que moi je propose. À partir de maintenant et jusqu'à, disons, demain midi, ouais, allez, ça peut le faire quand même. Vous envoyez des mails à France 3 pour exiger la diffusion sur France 3 demain soir, à la place de Barnaby, du film Simon Says. Rappelle-toi ce magnifique film de Kevin Elders avec Dennis Rodman et Philippe Nikolic.
Non,
Philippe,
tu veux dire
Nikolic, le... qui vient de mourir cette semaine, l'ex-chanteur des To Be Free. Rappelle-toi, les To Be Free.
Ah, mais pour moi, tu sais,
partir ça... un jour. Tu ne l'as pas, non, par hasard?
Non.
Ah, mais tu vois, ta culture est incomplète. Hein.
Non, j'ai d'autres Toulousains, c'est plus simple. Voilà. Non, ils étaient bordelais, eux.
Non.
Enfin, c'est du même niveau, quoi.
Ouais.
Sauf qu'eux, ils n'étaient pas à se lustrer. Hein. Ils se lustraient dans le poil. Ah non, ça, c'est années 80. Hein. Se lustrer le poil dans l'huile, etc.
Oui, mais les To Be Free, c'est milieu des années 90. 95, 96.
Et To Be Free moins 1 égale To Be Two.
Alors bon, bah, c'est quand même le premier boys band français, hein, faut le dire, hein, de
non,
la nouvelle génération.
Parle de la particulière.
Ah oui, non, mais ça c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose. Et Philippe Nikolic, bon bah la fin de sa carrière qui a été relativement brève, on va dire, hein, dans le monde des boys band, hein, bah c'était le but du jeu, hein, de toute façon, hein, Kleenex quoi, de toute façon, culture Kleenex. Et bien entendu, normal, hein, produit par les plus grands producteurs de la musique française.
C'est-à-dire les commerciaux.
Universal, Pascal Nègre, merci encore pour tout
mais
ce que tu as fait pour la musique.
Il y a que des commerciaux dans les majors depuis les années 90. Qu'est-ce
eh
que
oui,
tu
eh
pensais
oui.
qu'ils allaient produire?
Eh oui. Lui, il a quand même, on va pas dire réussi. Ouais, il a quand même réussi à passer à autre chose.
Oui.
Hein, pour
parce que là, je suis méchant, je fous un truc et franchement pas impassable. Mais honnêtement, justement, il a tenté de s'en sortir par le cinéma.
Oui, pour le plus grand bien de la musique d'ailleurs, il faut reconnaître.
C'est...
Peut-être pas pour le plus grand bien du cinéma et de la télé, mais en tout cas, bon, on l'a vu justement dans ce film avec Dennis Rodman, hein, donc Simon Says, et ensuite, bah, il a quand même réussi à décrocher quelques petits rôles, tels que le rôle d'un inspecteur dans la série Navarro. Rappelle-toi, si, en 2001-2002, il a fait du théâtre aussi, hein, d'ailleurs, il était à l'affiche.
Comme Sylvie.
Il était à l'affiche dans une pièce de théâtre quand il est décédé, là, hein, il était en pleine activité, donc, et il avait fait des pièce de boulevard, viens chez moi, j'habite chez une copine, drôle de parents avec Maurice Rich. Enfin bon, voilà quoi, quand même quoi. Je veux dire, c'est quand même ça. Enfin en tout cas, hein, je le répète, hein, envoyez des mails à France 3. On veut voir Simon Says demain soir sur France 3 à la place de Barnaby.
Non,
pas que Sim dans le monde.
Il y
a pas que Sim dans le monde. Hein. Y a Sim on Says aussi. Non, bon d'accord, laisse tomber. Passons à un sujet plus sérieux, toujours à la télé. Le retour de l'école des fans.
J'ai reviens en arrière là pour te réécouter parce que je t'avoue que là, non, trop tard.
Le retour de l'école des fans, c'est ce soir 20h35 sur Gulli, avec donc des nouvelles émissions qui seront programmées sur Gulli. Il y en a 6 qui sont prévues donc dans cette première saison. Alors toujours le même système. Hein. Là, c'est Philippe Risoli. Retour de Philippe Risoli, le lancer de micro, rappelle-toi, la roue de la fortune, rappelle-toi. Philippe Risoli donc qui ne revient pas ce soir. Ce soir, c'est une émission qui est plus ou moins une émission hommage hein, à Jacques Martin, avec un florilège de ses meilleurs passages, bien entendu, et également un best-of du casting 2009, donc, qui a permis de choisir les enfants qui seront au générique des 6 émissions à venir. Alors, la première émission enregistrée, on va dire, avec Philippe Risoli, ce sera samedi prochain, donc, hein, le 26 septembre. Et ce soir, on pourra voir, donc, outre l'hommage à Jacques Martin, donc, ce casting qui a, au départ, eh bien, réuni 200 enfants. Hein, dont 30 ont été retenus pour ces 6 émissions de la première saison. C'est ce soir sur Gulli à partir de 20h35. Sinon, comme les marronniers et comme chaque fois tous les automnes, c'est les Emmy Awards, 61e du nom. Donc,
ils n'ont pas déjà été attribués?
Non, c'est demain soir.
Parce c'est que j'ai vu soir. que Frey a déjà eu un prix, mais c'était pas pour sa série Sortie Rock, c'était pour son interprétation Saturday Night Live.
Non, c'est ça doit être un truc à part alors, hein, ça doit être un truc plus ou moins pirate, hein, de toute façon.
Je l'ai vu dans le bandeau de la Bible, donc j'ai pas fait gaffe.
Non, c'est demain soir donc, hein, demain soir sur série Club, à partir de 1h du matin, hein, c'est normal, décalage horaire oblige, ça se passe à Los Angeles. Alors, on va pas vous taper toutes les catégories parce qu'il y en a vraiment pas mal.
Meilleure marque lumière, la meilleure pose de moquette sur les murs, le meilleur montage de bande-annonce en format 13 secondes.
On va éviter, on en reparlera, on fera certainement samedi prochain.
La meilleure syndication d'une série des années 70.
Internet remarche d'ici là, parce que ça commence à gaver sérieux et très grave. Hein,
bah t'as le câble. T'es puni, t'as le câble. Donc, Internet par le câble, c'est puissance fibre. T'as du mal à digérer.
Ouais, c'est peut-être ça, quoi. Bon, ok. Donc les trois catégories les plus connues, hein, c'est-à-dire meilleure comédie, meilleure série dramatique, meilleur acteur, meilleure actrice dans la série comique ou série dramatique. Hein, c'est les 6 catégories, donc en fait les plus reconnues, hein, on va dire. Alors pour la meilleure comédie, sont nommés Entourage, Family Guy, Flight of the Conchords. Ça devrait être quelque
Family
chose.
Mais Family Guy, c'est de la merde. Je sais pas si t'as vu, mais ils ont fait des bandes annonces vidéo pour dire ah, tout le reste c'est de la merde.
Ouais, non, mais bon.
Oh, c'est à chier. Je peux pas, honnêtement, je peux pas.
Ok, ça a l'air très provoque, quoi. En tout cas, hein.
American Dad, c'est... Non, je peux pas. Honnêtement, quoi. Le coup du chien, le gosse insupportable qui tue le chien, le père... Mais les blagues sont beaucoup moins intéressantes que les Simpsons, tu vois.
Alors, il y a encore How I Met Your Mother, The Office, version américaine, 30 Rock, qui a déjà eu le prix, de toute façon, et Weeds. Donc, ça peut se jouer, je pense, entre Entourage, qui a pas encore eu ce prix-là, hein, et Sortie Rock, mais qui l'a déjà eu. Donc, ils vont éviter peut-être de charger la mule. On verra ça. Meilleur acteur dans une série comique, Jim Parsons dans The Big Bang Theory, ça devrait te plaire. Jermaine Clement dans Flight of the Conchords. Tony Shalhoub dans Monk. Alors lui, il a déjà eu 2 fois, je crois. Hein, le Emmy du meilleur acteur dans une série comique. Steve Carell dans The Office. Alec Baldwin dans 30 Rock. Lui, il l'a pas eu. Hein.
Ouais.
Il l'a pas eu. Hein. Il l'a eu, mais pas comme meilleur acteur, mais comme meilleur second rôle.
Second rôle, ouais.
Alors c'est assez rigolo parce que bon bah c'est toujours le même rôle, il y a toujours le même rôle quoi. Mais bon OK, là c'est meilleur acteur, et il y a également Charlie Sheen dans Mon Oncle Charlie, mais qui lui l'a déjà eu, donc bon bah on verra peut-être ce que vont décider les votants. Meilleure actrice dans une série comique, Julia Louis-Dreyfus pour All Christine. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais moi je dis franchement que je la préférais dans Seinfeld, hein, ça c'est clair. Mais bon, il faut dire que dans cette série All Christine, elle est quand même au-dessus du lot par rapport aux autres acteurs, hein, qui sont présents dans cette série, qui se laissent quand même néanmoins bien regarder, hein, c'est quand même assez savoureux de toute façon. Il y a également Christina Applegate dans Samantha Who en version originale. Mmh. Bon, j'y ai jeté un petit œil. Bon,
on est les garçons, on n'est pas objectifs.
C'est pas ça le problème, mais bon, quand tu vois la version française, tu peux vraiment te faire une bonne idée du truc. Alors bon, bah voilà, hein, tant pis. Sarah Silverman pour de Sarah Silverman Programme, ça, c'est, hein, on connaît pas trop. Tina Fey pour 30 Rock. Alors elle a déjà eu en tant que meilleure actrice, elle a déjà eu en tant que scénariste
oui.
de la série. Donc bon, elle en a eu trois, hein, c'était l'année dernière. Elle en a eu trois carrément.
Oui,
ça a
été la folie. Mais d'un autre côté, c'est un peu normal parce que ceux qui votent aux Emmys sont des industriels de la télé ou
les
des journalistes
de la profession,
des journalistes, etc. Et 30 Rock, ça c'est une caricature justement du backstage, je veux dire de la production d'un talk-show hebdomadaire d'humour. Ouais. C'est un peu comme si on avait fait à une époque une série télé humoristique autour de Nulle Part Ailleurs. C'est normal que ça cartonne.
Alors attention, outsider quand même dans cette catégorie meilleure actrice dans une série comique, c'est Toni Collette dans United States of Tara. Donc on ne connaît pas, on n'a pas vu, pas diffusé sur une chaîne française voire européenne, mais ça peut être quand même l'outsider. Et Mary-Louise Parker, déjà nommée pour Weeds. Et bon bah ouais, pourquoi pas, hein. De toute façon elle est très forte, hein, elle est très bien, la série est excellente de toute façon.
Qui se relance bien, ce qui paraît la nouvelle saison.
Alors ça, du côté des drames, la meilleure série dramatique, nous avons Big Love, Breaking Bad, attention, gros outsider là, Breaking Bad, Damages, alors là bon, il faut confirmer, hein, il y a pas de problème, Doctor House. En gros favori, mais bon, ils l'ont déjà eu. Dexter aussi, attention, hein, c'est du lourd hein, quand même. Hein. Lost et Mad Men. Mad Men aussi. Hein,
Mad Men qui cartonne.
C'était la surprise. Hein, surprise.
Ça a été une immense surprise parce que la petite chaîne qui le produit a quadruplé son audience entre le début de la saison 1 et la fin de la saison 2.
Voilà.
Parce que ça passe sur une petite chaîne indépendante en réseau. Qui s'appelle AMC, donc c'est pas un gros network, mais c'est la surprise de ce côté-là.
Ouais, alors la surprise c'est également Breaking Bad, hein, il faut le préciser, qui se fusait malheureusement sur Orange, hein, on avait cru un moment que ce serait Arte qui
il y a télé et télé, hein.
Et bon bah OK, hein, et quand Arte quand même Arte qui achète une série américaine, bon déjà on se disait ouais, et alors, j'ai vu le pilote de la série, je peux dire que ça a l'air bien péchu de toute façon.
Hein, alors, laisse Xavier Couture lâcher le fric pour avoir première exclusivité. Ça sera moins cher pour les autres chaînes.
Alors, on retrouve justement Breaking Bad dans la catégorie meilleur acteur dans une série dramatique parce que Bryan Cranston, naturellement, normalement, hein, moi je trouve que c'est logique. Hein, déjà, sa performance dans Malcolm est excellente en tant que père de la famille de déjanté de Malcolm. Hein, ça,
il est immense.
Magnifique.
Tu t'attends à ce qu'il devienne tueur.
Ouais, mais bon, bah, justement, hein, dans Breaking Bad, ça n'a rien à voir, mais encore là, il démontre quand même que c'est un excellent acteur. Michael C. Hall pour Dexter, Hugh Laurie pour Dr. House, là, c'est que des favoris. Gabriel Byrne pour En Analyse, John Hamm pour Mad Men et Simon Baker pour The Mentalist.
En analyse, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'une série a été nommée meilleur drama qui est diffusée en quotidienne.
Ouais, mais elle était déjà nommée l'année dernière.
L'année dernière.
Et Simon Baker, donc, pour The Mentalist qu'on peut voir sur TPS Star. Meilleure actrice dans une série dramatique, alors Sally Field, excusez-moi. pour Brothers and Sisters, là également déjà nommé, mais je crois que c'est l'autre qui l'avait eu, hein, pas Sally Field. Kyra Sedgwick pour The Closer, là également la série a été nommée dès la première saison, ça a été la grosse claque, hein, pour The Closer, ça a été la surprise quand même, et Kyra Sedgwick avait été nommée. Glenn Close, normal, pour Damages. Mariska Hargitay pour New York Unité Spéciale, c'est ce que je vous disais.
Ça fait
il y a
quand même
plus
la
tard.
Première chaîne, la première série que tu cites depuis le début de cette sélection que soit produite par une grande chaîne.
Parce que ouais. Damage is Fix, c'est pas MC, c'est une autre petite chaîne pour The Closer. C'est là où les petites chaînes explosent littéralement, je veux dire, face aux grandes chaînes qui sont de plus en plus en panne.
Tout à fait, tout à fait. Bon, Mariska Hargitay, c'est peut-être par rapport à ce que je disais il y a une semaine ou il y a 15 jours, hein, c'est que ça va être certainement sa dernière saison, la saison 10 de New York Unité Spéciale. Elle a envie de faire autre chose.
Tu m'étonnes.
Donc ils se disent, c'est le moment ou jamais. Elizabeth Moss dans Mad Men et Holly Hunter dans Saving Grace. Alors Saving Grace, c'est une série un petit peu spéciale qui repose principalement, à mon avis personnel, sur la performance justement de Holly Hunter, qui est excellente, et sur le climat un petit peu spécial de cette série, parce que bon, Holly Hunter parle avec des morts, parle avec un ange et tout, essaie de se racheter de sa vie un petit peu débauchée, on va dire, en tant qu'officier de police, en tant qu'alcoolo, en tant que nana qui couche avec n'importe qui. Le propos est un petit peu bizarre, hein, on n'accroche pas franchement, mais Holly Hunter est vraiment excellente dans cette série. Donc si elle reçoit l'Emmy, de toute façon, à mon avis, elle l'aura mérité de toute façon. Voilà, donc c'est demain soir, hein, à partir de 1h du mat sur Série Club en direct.
Je crois qu'il y a diffusion du tapis rouge avant sur i.
Ouais, peut-être, mais ça on s'en tape un petit peu.
Ça va être à chier.
Oui, oui, ça on s'en tape un petit peu, quoi. Mais c'est rediffusé par contre lundi prochain à partir de 20h40. Mais là, dans une version un petit peu réduite, hein, c'est-à-dire là, ils auront eu le temps de couper les longueurs, on va
enfin,
dire.
Enfin, surtout
hein.
Les pubs.
Et les Français vont faire pareil, hein, de toute façon, quoi, sur Série Club. Ils vont pas diffuser les pubs américaines, ils ont pas le droit. De toute façon, donc c'est demain soir, à partir de 1h, les 61e Emmy Awards sur Série Club. Sinon, c'est la dernière séance d'Apocalypse mardi prochain sur France 2 à partir de 20h35. Les deux derniers épisodes, alors ne les loupez pas, c'est magnifique, c'est excellent. Chaque semaine là maintenant, je commence à en avoir le cul. Et en plus, ça fait
un peu mal quand même avec Kassovitz qui a commencé à donner des thèses négationnistes à propos du 11 septembre 2001.
Ouais, mais enfin bon,
ça fait un peu bizarre quand même.
Ouais, ouais, mais bon, non, mais moi je le trouve très bien en tant que commentateur. Là, je trouve que vraiment il est très bien, il est sobre et tout, il en fait pas trop. Il insiste.
Ça rappelle de Nuremberg à Nuremberg.
Ouais, ouais, il a un petit peu plus de trémolo dans la voix dès qu'il s'agit de la Shoah et de tout ce qui a été fait aux Juifs. Mais bon, ça, on peut peut-être le comprendre un petit peu. Hein. Mais encore, il reste très sobre, donc ça va. Mais la cerise sur le gâteau, mardi prochain, c'est qu'après les deux derniers épisodes d'Apocalypse, eh bien, on nous diffuse le film de Oliver Hirschbiegel, La Chute. Hein, ce fameux film avec Bruno Ganz dans le rôle d'Adolf, les derniers jours de Adolf.
Avec cette scène dans le bunker dans où Adolf Hitler pète un câble. Scène qui est reprise sur le net comme étant un mème où tout le monde met son sous-titre qu'on veut. Alors je sais pas si vous êtes allé voir le site Ségolène Royal, Désir d'avenir, qui est une horreur. Il y en a un qui a fait, alors ça s'adresse plutôt à la profession, aux professionnels du web. Il en a fait justement un ressous-titrage qui a pleuré de rire. Et pourtant, ce film, La Chute, est vraiment, il est prenant. Et d'un autre côté, je vais pas dire qu'on a de l'empathie pour Adolf Hitler, loin de là, mais on est vraiment, on comprend pourquoi justement tous ses généraux, tout son entourage, etc., lui mentaient. C'est flagrant. On se dit, mais finalement, mais ce type devait avoir un pouvoir de persuasion immense pour que tout le monde ait peur de lui. Et c'est ça qui est fabuleux à regarder.
Voilà,
c'est un film qui avait fait beaucoup de débats au moment de sa sortie en Allemagne.
Fait, tout à fait. Hein. Et Bruno Ganz est excellent. Hein,
c'est une prestation
immense. De toute façon,
immense,
Bruno Ganz est toujours excellent.
Bah, ils ont été récompensés. Ils ont eu un ours d'or à Berlin. Ils ont eu un à Venise, un lion d'or. Enfin, bon,
ouais. C'est Julian Köhler qui joue le rôle d'Eva Braun. Et dans les rôles des époux Goebbels, on a Ulrich Mathes pour Joe et Corinna Harfouch dans le rôle de sa femme, de Madame Goebbels. Ça, c'est donc mardi prochain sur France 2 à partir de 20h35 et La Chute, c'est donc à partir de 22h35.
À regarder en VO, vraiment, parce que même si vous ne comprenez pas l'allemand, il y a un travail immense qui a été fait sur les dialogues et sur les accents, puisque Hitler, lui, vient du Sud et tout ça. Et on sent,
il est autrichien.
Mais même si on ne comprend pas l'allemand, on sent bien par certaines tournures, etc. On sent vraiment justement les différences et pays, et que justement comment ils s'estiment suivant la province d'où ils viennent. C'est très important.
Ah bah oui, mais c'est comme en France, hein, encore de nos
ah
jours.
Oui, hein. Tout à fait, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre justement dans, dans le pouvoir de la Seconde Guerre mondiale, si on n'a pas cette relation.
Bah, historiquement, c'est encore plus complexe, hein, parce que bon, oui. L'Allemagne en tant que telle hein, a été réunie il y a vachement moins longtemps que nous, hein, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. De toute façon, on va pas aborder ce sujet.
Non, sinon,
on en aurait pour des
heures. On va nous traiter de France Culture. Et voilà. Après, Marc Vincher va me foutre un procès au cul.
Bon, c'est pas en VO, hein. Alors là, c'est le seul bémol, mais bon, on fera avec.
Dommage, c'est la dernière chaîne à ne pas diffuser en VO, hein.
Ah ouais, mais bon.
À part la 3, mais bon.
Enfin, peut-être, hein, mais bon, là, je ne pense pas, quoi. Peut-être qu'il y a une version.
Ils ont pas de version multicanal sur la 2.
À mon avis, non, quoi. Il n'y a pas de VM, hein, de toute façon, quoi, sur France 2. Quoi, donc non, tu vois, donc,
d'ailleurs à propos de version multicanal, le dernier épisode de saison 1 de Damages sur M6, on la regarde en VO, coupure pub, on revient
et, y a plus
et 4
VO.
Minutes en français ah ouais, on était ouais, là ouais. Mais putain mais qu'est-ce qu'ils foutent, et puis là
ça me rappelle les bons souvenirs du début des versions multilingues, tu sais, quoi, où,
ah oui non mais on sent que TF1 est un peu plus professionnel qu'M6 de ce
ouais,
côté-là
ouais, non, bon, ok hein. Ben, c'est ça l'électronique, si tu veux, quoi. Tu maîtrises pas quoi. Enfin, ça marche pas quoi. Alors on parlait de Sim, bah justement une occasion de le revoir encore à la télé dans un inédit de Louis la Brocante sur France 3 jeudi prochain à 20h35. Louis voix double avec Victor Lanoux, Sim donc et Evelyne Buil. Un inédit, hein, donc. Inédit également, bien, c'est un jour juste avant Louis la Brocante, le mercredi prochain 20h35 sur France 2. Un flic, je vous en ai parlé la semaine dernière. Là, c'est le deuxième téléfilm de Patrick Debolf, la nouvelle saison.
Il n'y a pas déjà eu deux de diffusés ?
Non, c'est le deuxième, ça, quoi.
Ah, deuxième inédit, pardon.
Deuxième inédit, hein, de la deuxième saison. Donc, Ligne de fuite de Patrick Debolf avec toujours Alex Deka. Donc, François Caran et Marie-Gaëlle Kals. Sinon, vas-y, fais péter le morceau.
Rock'n'roll !
Rock'n'roll !
Voilà, si Anthony nous écoute, je suis sincèrement désolé, c'est du sport qui m'y oblige. Oui, parce qu'il faut monter, il faut penser aux monteurs des génériques des versions françaises, des fois ils en chient. Voilà.
Comme Star Trek, Next Generation, 90-210 Beverly Hills, ce soir sur M6 à 18h45. La nouvelle génération.
Tiens, j'ai l'impression que le net va être coupé. Hein,
avec
40.
Avec quand même de l'ancienne distribution. Alors il faut signaler qu'ils ont quand même dû attendre la mort d'Aaron Spelling pour pouvoir
avoir les droits. C'était moins cher.
Non, pour pouvoir retourner ce genre de truc. Hein, de toute façon, que l'ensemble, pratiquement l'ensemble du casting n'a pas voulu retourner dans cette nouvelle série.
Tu m'étonnes.
Mais attends. Que justement bah, la seule qui avait été fâchée, qui était partie relativement tôt de l'ancienne distribution, eh ben, elle a été d'accord pour revenir. Il s'agit de l'immense, de l'excellente Shannen Doherty. Magnifique, excellente, très belle, je t'aime. Et il y a également la présence de Rob Estes.
Ça te concerne que toi, tu te démerdes avec Christine.
Hein. Ouais, mais elle le sait. Hein. Et elle, il y a également du côté qui joue le rôle du papa, donc Rob Estes. Donc, Rob Estes, voyons The Evidence qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça, et un petit peu plus loin, rappelle-toi, les dessous de Palm Beach.
Oh là là.
Ah oui, oh, putain, Rob Estes.
Le petit genou qui regardait, qui reluquait là du FBI, c'est ça?
Eh ouais. Alors c'est donc ce soir à partir de 18h45 sur M6. J'ai cherché les programmes de TF1, je me suis dit bon ça va être sur TF1, c'est normal, hein. Ben non, c'est M6 hein, qui diffuse donc cette nouvelle version de Beverly Hills ce soir à partir de 18h45. Et passons du coq à l'âne avec sur France 2 vendredi prochain. Sur France 2 le vendredi soir généralement c'est Polar. Eh ben là non, ce n'est plus Polar depuis quelques semaines.
Oui.
C'est.
Bah c'est du ambulancier, non, il me semble.
Non, c'est adaptation de romans historiques. On avait eu droit à.
Oh putain, hier, c'est vrai, il y a eu. Merde. Papapon, l'autre. Le copain de Mitterrand.
Petit meurtre entre amis, ces choses-là. Et...
Mais non, mais hier c'était. Papa Pon. Merde, mais c'est pas vrai. Je regarde le programme télé du coup.
Ok. Et auparavant, c'était diffusé le mardi.
C'était Bousquet, hein. Le truc sur René Bousquet.
Le truc sur Bousquet, voilà.
Oui, qui est immense, absolument génial.
Et là, c'est une série qui, inédite, qui auparavant, faisait partie de la programmation du mardi de France 2, à savoir toute cette série de téléfilms qui avait été tournée, très bien d'ailleurs, qui s'appelle Au siècle de Maupassant. Et là, à 20h35, il y en aura deux, donc vendredi prochain sur France 2. À 20h35, Le petit vieux de Batignolles, qui est un bouquin, non pas de Maupassant, mais d'Émile Gaborio, réalisé par Claude Chabrol, avec Pierre Arditi, Bernard Blancan, justement, les Inconnus, et Sophie Arthur, entre autres, suivi de justement d'une histoire adaptée d'un roman de Guy de Maupassant, à 21h30, Histoire d'une fille de ferme, avec Olivier Marchal, Marie Crémer et Vincent Jonquaise. Donc tout ça, c'est vendredi prochain sur France 2, 20h35, Le petit vieux de Batignolles avec de Chabrol, donc avec Arditi et Blancan, et à 21h30, Histoire d'une fille de ferme, d'après Maupassant, avec Olivier Marchal et Marie Crémer. Sinon, vendredi prochain également, sur Arte, on a un documentaire... une série documentaire, on va dire, en 10 parties, deux documentaires, c'est-à-dire deux parties chaque vendredi soir, en deuxième partie de soirée, à partir de 22h15, et sur Arte, c'est en version multilingue, et là, c'est produit par Denis Poncet et Jean-Xavier de l'Estrade, ça te dit quelque chose? Un coupable idéal, Jean-Xavier de l'Estrade avec son frangin, nous avait d'abord, juste après le 11 septembre, nous avait sorti un film parce qu'ils étaient en train de tourner ils voulaient tourner un documentaire.
Ah, sur les pompiers
de
New York.
Voilà, sur les pompiers de New York. Et donc.
Et c'est eux qui ont filmé le premier crash.
Ils ont filmé le crash, donc.
Le premier.
Du premier immeuble. Ils étaient là par hasard, quoi. Mmh. C'est-à-dire que ils voulaient. Ils n'avaient pas prévu le coup, ou peut-être que si. C'était un complot.
Oui, alors là, ça va quand même. Je me suis refait la journée du 11 septembre, enfin, ce moment-là très précis, sur les trois chaînes. On peut le voir sur archive.org. Et le deuxième crash, eux, ils l'ont en direct, tous. Savoir, chaque fois, ils n'ont pas de bol, ils n'ont pas le bon plan. C'est l'une des thèses, c'est que, c'est bien la preuve que c'est un explosif, on ne voit pas l'avion passer. J'ai regardé si l'avion le voit bien passer, c'est juste que.
Moi, je l'ai vu en direct sur LCI.
Sur LCI, ouais, mais c'est juste que sur les trois grands networks américains, ils n'ont pas eu le bon plan à ce moment-là à chaque fois.
Sur LCI, on l'a vu en direct.
On l'a vu, oui, mais on l'a vu sur CNN. Ah, moi, j'étais blanc.
Ouais, moi, j'étais pété de rire, je me suis dit que c'est excellent, ça, c'est de la vraie télé, quoi. Sur Arte vendredi prochain 22h15, donc produit par Denis Poncet et Jean-Xavier Lestrade, qui nous avait fait donc un coupable idéal, où justement ils étaient dans le sud profond de l'Amérique et ils avaient suivi tout le procès d'un jeune black qui était accusé de l'assassinat d'un type blanc, bien entendu, et par la grâce d'un avocat commis d'office, un vieil avocat, un vieux de la vieille irlandais de par ses origines et tout, quoi, qui voulait pas lâcher le morceau. Et il s'est trouvé que en fait le black il était dans le coin, mais pas au bon endroit au bon moment, mais c'était pas lui, donc documentaire magnifique, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire d'ailleurs, ils ont fait après Soupçon. Et là, ils nous sortent Justice à Vegas. Alors, ça paraît être le titre d'une série américaine. Ça fait vraiment série américaine et tout. Et en fait, ça nous raconte les dessous de ce qui se passe à Las Vegas. Las Vegas, on connaît les paillettes, on connaît bien sûr Jill Grissom, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la vraie vie et les dessous un petit peu trash. Et là, ils ont suivi ce qui se passe au niveau judiciaire, c'est-à-dire l'instruction d'une affaire.
Je veux pas dire une connerie, mais Arte n'avait pas diffusé cette semaine un autre documentaire sur justement le métier d'expert judiciaire à Las Vegas.
Si, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Là, il s'agit du package complet, c'est-à-dire depuis le début de l'affaire et jusqu'à la résolution finale, c'est-à-dire jusqu'à la condamnation des coupables.
Suivant le résumé que j'ai sous les yeux, ils disent que Las Vegas c'est le plus fort taux de criminalité des États-Unis.
Exactement. Et là,
j'ai cru comprendre que c'est plus proche de la frontière mexicaine, il y a pire.
Ouais, mais bon, là déjà les deux premiers documentaires, c'est les deux premières parties, donc c'est la même histoire, hein, et puis bon, ça débute par l'histoire d'une gamine de 3 ans qu'on retrouve morte dans une poubelle, et donc la mère au bout de, d'une semaine, la mère au bout d'une semaine décide d'aller voir les flics et puis dire oui, on l'a enlevé et tout ça, mais bon, il va s'avérer que c'est peut-être pas ça exactement, et donc ça va être en deux parties. Hein, cette première partie de ce documentaire qui est en 10 parties, donc ça va nous faire 5 vendredis sur Arte en deuxième partie de soirée. Alors ne loupez pas celui-là, hein, c'est à partir de 22h15 vendredi prochain sur Arte, et c'est en version multilingue, donc là on va suivre exactement comment se passe toute une affaire criminelle du début jusqu'à la fin. Et quand c'est Denis Poncet et Jean-Xavier de Lestrade, on peut se dire que ça peut être pas mal du tout, de toute façon. Donc Justice à Vegas sur Arte à partir de vendredi prochain, 22h15.
Le supplément week-end sur Radio FMR, émission numéro 209. Du sport ouvre un bouquin. Et ma foi, qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Ah, non, c'est pour faire une citation. Allez, des films maintenant à la télé. Wouh ! Avec toujours le samedi sur RTL9 à 20h35, Le Crépuscule des Aigles. De John Guillermin en 66, il est connu ce film quand même, George Peppard, James Mason et tout, qui s'attache à suivre des aviateurs allemands de la Première Guerre mondiale. Rappelez-vous, le Baron Rouge, ce n'est pas vraiment l'histoire du Baron Rouge. Il est cité dans le film, mais c'est pas lui le personnage principal de toute façon. Hein, c'est plutôt un mec qui cherche justement à devenir comme le Baron Rouge, hein, c'est-à-dire un héros de l'aviation. Et on ne parle même pas de Hermann Göring dedans, quoi. Et pourtant, Hermann Göring a été un héros de la Première Guerre mondiale, un des aviateurs héros aux côtés du Baron Rouge.
C'est pour ça, c'est ce qui a fait sa renommée et ce qui fait que justement il s'est bien placé auprès des, enfin dans le NSDAP.
Voilà. Sur Polar ce soir donc à 23h10, La main sur le berceau de Curtis Hanson, un bon polar de toute façon, avec Rebecca de Mornay qui après ce rôle a trouvé plus que des rôles du même style, hein, faut le dire ce qui est, hein, de toute façon malheureusement pour elle, bon, enfin elle les joue très bien, alors il n'y a pas de problème. Annabella Sciorra et Matt McCoy. Demain soir sur Arte, la théma c'est Vampire. Alors la première partie, entretien avec un vampire, bon, c'est dispensable, on va dire, hein, y a pas de problème.
Tout à fait.
Mais par contre, à 23h35, ne loupez pas ce film Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. C'est le titre original et en français ils ont traduit Nosferatu le vampire. C'est le premier de Murnau en 1922, la version muette donc, avec Gustav von Wangenheim,
qui a été parodié au cinéma.
Oui, bien sûr.
Mais je veux dire, ils ont fait une espèce de faux making of où en fait Nosferatu, en fait, est un l'acteur qui le joue est un vrai vampire. Je vais essayer de le retrouver. C'est avec John Malkovich.
Il y a également Max Schreck, donc, qui joue le rôle de Nosferatu. Max Schreck, né en 1870, mort en 1936, qui a également fait des finances.
Voilà. C'est L'ombre du vampire de Elias Merige.
Ouais, qui a Max Schreck, donc, l'acteur qui interprète le rôle de Nosferatu, qui a également fait en 25 des finances des Großherzog. Du Grand-Duc, les finances du Grand-Duc, avec de Murnau également, et qui a fait d'autres films. Bon, la plupart sont complètement paumés, disparus, hein, on les a pas retrouvés.
Bah, mais aussi, aussi, à l'époque, je veux dire, on pensait pas à sauvegarder les films. Les films avaient une exploitation qui durait un an, deux ans, et ensuite.
Et les films étaient très fragiles, vu qu'ils étaient faits en nitrate, donc ça cramait
vachement
facilement. Et il a également fait une version de Ludwig der Fighters, König von Bayern, Ludwig II, le roi de Bayern, de Bavière. Eh ouais, en 1929. Et c'est un
grande mythologie.
Il a fait une trentaine de films, hein, quand même, quoi.
Oui, oui.
Ce type-là, quoi, jusqu'en 1936, année de sa mort. Nosferatu, c'est demain soir, 23h35 sur Arte. Hein, ne le loupez pas. Ça, c'est carrément.
Mais je ne sais pas si c'est. Attends, je vérifie, mais je me demande si c'est pas la version qui a été colorisée. Et qui a été interprété musicalement par...
Non, c'est pas...
Attends, tu dis que c'est Arte ?
Ouais, okay. Non, c'est pas... Sur Arte, ça m'étonnerait qu'ils diffusent une version comme
si,
ça.
Si, ils l'ont fait.
Oui, puis ils l'ont fait pour Metropolis, mais bon, parce qu'il fallait faire la différence, quoi. Mais bon...
Non, pour ce... Attends, il y a Entretien pour un vampire, La princesse vampire, et tu dis que
c'est le documentaire à 23h35.
D'accord. Hop, 100% foot, non, je me trompe, là.
Non, ça c'est M6.
Et il y a marqué stéréo. Donc, musique à Hanser Hagman, pardon, excuse-moi, je te l'ai dit en plus.
Demain également sur Direct 8, du film français avec une soirée spéciale Lino Ventura. Avec tout d'abord un excellent petit film de Pierre Granier-Deufer en 65 qui s'appelle La Métamorphose des Cloportes. Alors le générique de début est excellent, hein, de toute façon, quoi. Magnifique, avec Lino Ventura, Pierre Brasseur, Charles Aznavour et Maurice Biro. Lino Ventura, un mec qui sort de tôle et qui va retrouver ses ex-comparses parce qu'ils ont commis un casse et tout. Et lui, il veut récupérer sa part de magot et manque de bol.
A plus.
On n'a pas pensé à lui, tu vois, quoi. Alors il va pas être content du tout. Mais c'est très bien.
Quand
c'est
Lino fâché, lui toujours faire un signe.
Ouais. Et à 22h30, Un Taxi pour Tobruk, également vachement connu. De Denis de la Patelière en 61 avec Lino Ventura, les mêmes, hein, pratiquement. Il y a Charles Aznavour également, Maurice Biro et le prisonnier allemand qui font un moment, Hardy Krüger, bien entendu,
qui jouera après dans les Tontons Flingueurs, tous les films de Jean, quoi.
Sur Ciné-Cinéma Frisson demain soir à 20h40, Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón avec Clive Owen et Julianne Moore, excellent, très bon film, à ne pas louper. Et là, je reviens à la charge, comme samedi dernier, hein, si vous n'avez pas vu encore de film de Ken Loach, il y en a un seul que vous devez absolument voir, c'est celui-ci, Family Life, de Ken Loach, c'est sur Ciné-Cinéma Club, demain soir à 22h35. C'est un vieux Ken Loach, de 71, un de ses premiers, mais il est tout simplement magistral. Demain, toujours à la télé, sur Ciné Polar à 21h, New York 2h du matin, le Ferrara de 84 qui est bien, avec Tom Béranger, Billy Dee Williams, Janet Julian et Jack Scalia. Sur la chaîne Action demain à 20h40, ça va faire plaisir à Thomas, Jennings Cop de Benny Chang en 99 avec Nick Tse, Eric Tsang et Grace Yip. Lundi sur Arte à 20h45, alors là c'est un monument du cinéma que vous pouvez voir une dizaine de fois, je sais pas en combien j'en suis, mais bon, c'est pas grave, hein, ça se laisse toujours revoir avec un bonheur, un plaisir. Le livre, j'ai déjà lu 3 fois au moins, de toute façon, hein, vu que c'est un grand classique, hein, de Big Sleep, Le Grand Sommeil de Howard Hawks en 46, avec Bogart, Bacall, Martha Vickers, Charles Waldron et John Ridgely. La fin du Grand Sommeil, je vous la lis carrément, parce que bon, il n'y a pas de... on spoil pas du tout. Qu'est-ce que ça peut faire, où on vous met quand vous êtes mort? Dans un puisard dégueulasse ou dans un mausolée de marbre au sommet d'une grande colline? Vous êtes mort, vous dormez du grand sommeil. Et c'est là qu'on voit, c'est le seul moment à la fin du bouquin que est cité The Big Sleep, Le Grand Sommeil. Vous en foutez de ces choses-là. Le pétrole et l'eau, c'est de l'air et du vent pour vous. Vous dormez du grand sommeil. Tant pis si vous avez eu une mort tellement moche. Peu importe où vous êtes tombé. Ça, c'est la fin du bouquin Le Grand Sommeil, bon, qui n'est pas cité dans le film, bien entendu. Alors, le film d'Howard Hawks a été non pas scénarisé par Chandler, mais a été scénarisé par William Faulkner, Lee Brackett, qui était un des très grands scénaristes de Hollywood de ces années-là. Et alors, Faulkner et Lee Brackett écrivaient chacun des scènes séparées. Et ensuite, c'est un troisième scénariste qui a rassemblé un petit peu le tout, quoi, qui s'appelle Jonas Furtman. Donc, mais Chandler a quand même travaillé pour Hollywood. Il a commencé en 43 avec l'adaptation d'Assurance sur la mort, hein, le film de Billy Wilder tiré du bouquin de James Cain avec Fred McMurray et Barbara Stanwyck. James Cain, également l'auteur du polar Le Facteur sonne toujours 2 fois. Donc pas n'importe qui. Chandler en 44 ici une adaptation du Bonheur et pour demain le film d'Irving Pichel And Now Tomorrow. En 45 ici co-scénarise l'invisible meurtrier de Lewis Allen The Unseen en version originale et il adapte son propre roman qui était inachevé, Le Dahlia Bleu, avec Alan Ladd et Veronica Lake, tourné par George Marshall. Un roman donc qui l'avait proposé comme ça, quoi. On lui avait dit ce serait serait bien que tu n'as pas un scénario parce que en 45 Alain Ladd il devait partir pour faire l'armée hein, il avait été et donc il fallait
fallait
qu'on lui fasse faire un dernier petit film et tout parce que bon bah il était en plein dans son succès des années passées La Clé de Verre en 42 le bouquin de Hamet quoi donc. Et Chandler il propose ce roman, il dit ouais bon moi j'ai 120 pages là et tout. Et donc le tournage s'est fait alors que les mecs savaient pas, c'était comme à la télé maintenant quoi. C'est-à-dire les mecs ne savaient pas le lendemain ce qu'ils allaient tourner parce que ils écrivaient tous les soirs et tout. Et c'était une période de la vie de Chandler où bon bah il était bien imbibé par le whisky. Donc on savait pas trop ce qu'il allait en sortir et il est sorti Le Dahlia Bleu qui est un polar qui on va dire décent hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais
c'est devenu par son interprétation un film entre guillemets de référence.
Et après la même année, mais après Chandler toujours embauché par les grands moguls de Hollywood s'attaque au scénario de L'Inconnu du Nord Express de Hitchcock, mais seulement c'était tellement confus, tellement bordélique hein, que Hitchcock a décidé de tout balancer et de faire tout réécrire par un autre scénariste, le scénariste qu'on connaît pour L'Inconnu du Nord Express de Hitchcock. Voilà pour la petite histoire. Alors il faut savoir aussi que dans The Big Sleep hein, c'est bien entendu hein, le détective Philip Marlowe, mais que c'est pas Bogart qui a fait le premier Marlowe hein, c'est Dick Powell qui a interprété le premier Marlowe au cinéma dans Murder My Sweet en 1944, hein, tourné par Edward Dmytryk et qui a donné Adieu ma jolie en français, dont le remake a été fait dans les années 70 avec un certain Robert Mitchum qui a repris le rôle hein, qui était tenu par Dick Powell en 1944. Voilà pour la petite histoire concernant The Big Sleep de Howard Hawks. Donc je rappelle, c'est lundi soir, hein, c'est toujours les grands classiques du cinéma sur Arte du lundi soir 20h45. Là bah, vraiment on est gâté. Donc allez-y hein, si vous l'avez jamais vu, de toute façon ça vaut le coup. Si vous connaissez le bouquin, sachez que la fin dans le film n'est pas la même. Il y a une petite différence hein, concernant la mort d'Eddie Mars. Enfin ça c'est vraiment pour les gens qui
connaissent. Il y a pire maintenant.
Hein, ça ne nuit pas vraiment à l'intrigue dans le film. Hein. Disons qu'on va dire que le film est un peu plus simpliste que l'histoire qui est développée dans le bouquin. Mais ça gêne vraiment pas du tout. Donc The Big Sleep c'est lundi prochain sur Arte à partir de 20h45 en version multilingue bien entendu. Hein. Ça va de soi de toute façon. Toujours lundi sur RTL9. Ah ça c'est un de nos standards, un de nos classiques hein, qui revient tout le temps. Nico d'Andrew Davis avec Steven Seagal, Pam Grier et Sharon Stone. sur TMC, ben, dans le même genre, Bourpif à fond les manettes, mais plus récent, K.O. de Tony Giglio en 2006 avec Jason Statham, Wesley Snipes, Ryan Phillippe et Nick Lee, le grand Nick Lee, Creech dans... dans X-Files.
Oui.
Ok. Sur TCM, lundi à 22h30, L'Homme qui n'a pas d'étoile, un western de King Vidor en 55 avec Kirk Douglas, William Campbell, Jane Crane et Claire Trevor. Sur CinéFX, une curiosité, une rareté, on va dire, un film de George Romero qui n'est pas souvent montré, c'est Knight Riders, une histoire de motard avec Ed Harris et Gary Latty, hein, c'est un Romero de 81 sur CinéFX lundi prochain. Et une soirée spéciale Caroline sur Orange Ciné Géant avec à 20h40 Caroline Chéri de Richard Poitier en 1950 avec Martine Carole bien entendu hein, dans le rôle qu'il a fait connaître et qui a créé un petit peu la polémique parce qu'à l'époque eh bien on sortait de la guerre, les mœurs étaient assez prudes on va dire et dans ce film eh bien Martine Carole dévoile mais le début d'un sein. Tu vois, alors à l'époque, hein, le début
naissance.
D'un décolleté comme ça, et là, bon, ça a rué dans les brancards et tout. Elle s'est fait descendre comme c'est pas permis, Martine Carole, avec à ses côtés Jacques Dacmin, hein, qui à l'époque a bien été quand même jeune premier, on va dire. C'est suivi à 22h55, toujours sur Orange Ciné Géant, lundi prochain, par Un Caprice de Caroline Chéri, de Jean Devenne en 1952, et à 0h45 par... À la suite du caprice, qu'est-ce qui arrive? Le fils de Caroline Chéri, de toujours le même Jean Devèvre en 1955. Mardi, sur Direct 8, Les Trois Mousquetaires d'André Hunebelle, magnifique, la version de 53
en noir et blanc.
Bien sûr, à partir de 20h40, avec Georges Marchal, Gino Cervi, Jacques François et Bourville dans le rôle du valet.
Oui.
Eh ouais.
Il était immense.
Sur Cinéma Classique, mardi prochain. Spécial western avec à 20h40, 3h10 pour Yuma, celui-là il est excellent, hein, c'est un Delmer Daves de 57 avec Glenn Ford, Van Heflin et Felicia Farr, suivi à 22h10 d'un autre western qui a l'air sympathique, hein, de Dick Richards en 72, de La poussière, la sueur et la poudre, qui raconte les aventures d'un jeune urbain qui se barre de chez sa famille et tout, et qui décide de devenir cow-boy. Donc il va apprendre un petit peu ce que c'est devenir cow-boy et tout, avec des vrais, avec des purs, des durs, des tatoués, interprété par Gary Grimes, Luke Askew et Bo Hopkins, entre autres. Mercredi, on a, ben ouais, toujours un des classiques qu'on cite à chaque fois sur RTL9 à 20h35, Kickboxer, l'original, avec JCBD et Dennis Chan, suivi du Kickboxer 2 à 22h25 d'Albert Pyun avec Sacha Mitchell. Alors le Kickboxer 2 est vachement trash par rapport au 1, c'est-à-dire
ah oui, il n'y avait plus JCVD, il fallait y aller plus fort.
Ah oui, non mais ça y va quand même grave quoi, hein, faut dire ça saigne, ça charcle grave. Outre Sacha Mitchell qui bon tire quand même son épingle du jeu, hein, faut le reconnaître. Il y a Kari Hiroyuki Tagawa, Dennis Chan encore présent et Heather McComb sur NT1 mercredi prochain à 20h35. Fugue de Steve Wong en 96 avec Marc Dacascos. Alors c'est dans la même série que celui qu'on a pu voir mercredi dernier où je vous avais annoncé Anthony Wong avec Casper Van Dien, hein, Ninja en guerre. Et malheureusement, ben ces enfoirés, hein, qui nous font les programmes de télé, ils avaient oublié que le Anthony Wong en question, ce n'était pas notre Anthony Wong, mais c'était Anthony Brandon Wong.
Ah,
donc
putain.
Tout faux, mais quand même bon, c'est relativement sympathique et tout, hein. Les ninjas qui dégomment tout sur le passage et tout, ils dégomment l'ensemble d'une entreprise de technologie japonaise. Ensuite, ils vont dans le commissariat, ils dégomment absolument tous les flics qui sont à l'intérieur du commissariat. Bon, ben c'est de l'improbable comme on aime bien, quoi. De toute façon, bien sûr, bien entendu, ça se finit bien. Alors, ce qui est vachement marrant dans Ninja en guerre et tout, c'est que Casper Van Dien, qui joue le rôle de l'inspecteur de police et tout, à chaque fois, il débarque et tout. Il sort son flingue et tout, et les trois premières fois, à chaque fois, le ninja, d'un petit coup de kick et tout, clac, bah, il le désarme, hein, naturellement.
Il claque au
donc lui, il est là comme un con et tout, qu'est-ce que je fais face à des ninjas super entraînés qui ont l'attirail parfait du ninja et tout. Il se fait dégommer et tout, il finit, d'ailleurs, le film dans un état assez pitoyable avec des marques sur la gueule un petit peu partout, des pansements et tout, c'est assez rigolo quand même, ça s'est laissé regarder, mais quand même, honte à vous, hein, les programmateurs, et honte à vous, hein, ceux qui font les programmes de télé, hein. Anthony Brandon Wong, ce n'est absolument pas Anthony Wong. Alors, toujours mercredi prochain, sur Sci-Fi, ah oui, ça aussi, c'est un film qu'on aime bien, 20h40, Mutant Aquatique en Liberté de Sean Cunningham, avec Marius Weyers, Storin Brolac, Greg Evigan et Nancy Everhart. Et mercredi encore, sur Ciné-Cinéma Classique, L'Aventure de Madame Muir, là un excellent Mankiewicz de 47 avec Jane Tierney, qui parle à un fantôme, interprété par Rex Harrison, et également George Sanders et Natalie Wood, qui là joue le rôle d'une petite gamine, donc toute petite, toute ch'tite là, la petite Natalie Wood. Mais il est excellent, hein. très bon film, hein. L'Aventure de Madame Muir avec la très très belle, magnifique, hein, et ça a été pour moi l'une des plus belles actrices hollywoodiennes qui ait jamais existé. Marilyn Monroe à côté, c'est vraiment
surfait.
Non, c'est elle est moche, hein, franchement quoi. Mais Jane Tierney, hein, c'est pratiquement la beauté incarnée. De toute façon, c'est mercredi prochain à 22h20 sur Cinéma Classique. Et toujours mercredi prochain, un classique du polar sur la chaîne Polar à 21h. Quoique ce ne soit pas un polar, mais plutôt un film noir. Choc Corridor de Samuel Fuller en 63 avec Peter Brake et Constance Towers. Jeudi sur W9 à 20h35, là, grand classique, de toute façon, musique de Lalo Schifrin, Enter the Dragon, Opération Dragon en français, avec de Robert Close, avec Bruce Lee, John Saxon et Jim Kelly, hein, ça c'est le meilleur de Bruce Lee, de toute façon, hein, au niveau de la réalisation, au niveau de l'histoire et tout ça, quoi. Quoique, moi j'aime bien Big Boss quand même, quoi. Mais bon, pour des raisons différentes. Et sur TF6, jeudi prochain, Highlander de Russell Mulcahy, l'original, suivi de Highlander 3. Pas le 2, non, le 3.
Encore plus mauvais.
Oui, oui, avec Mario Van Peebles.
Non, il est un petit peu meilleur que le 2.
Ah, oh, moi j'aime bien le 2.
Hein. Je rappelle que donc le 2, il y a eu plusieurs montages et que même Manu, il y a un montage qu'il a pas vu. Manu, qui est notre très grand spécialiste franchise Highlander.
Eh oui, Manu,
il a découvert un montage.
Manu, désolé, hein, il t'a entendu quoi lors de ta brillante rétrospective sur cette dans cette émission et ils ne diffuseront pas le Highlander 2. Donc c'est le Highlander 3 avec Mario Van Peebles, mais il y a Deborah Unger, donc ça vaut le coup.
D'ici qu'il passe le 6, hein, de toute façon.
Jeudi prochain sur Ciné Cinéma Famise, là aussi un grand classique. Alors là, c'est le film, tu te pisses dessus de rire du début jusqu'à la fin. Certainement le meilleur Mel Brooks, les producteurs avec Zero Mostel et Gene Wilder, ça c'est à pas louper. Mais vraiment à pas louper si vous n'avez jamais vu ce film. Mais allez-y, Franco, ça c'est de la balle mon gars. Ça vraiment c'est de la super balle. Jeudi prochain, toujours sur TCM, à 22h25, Billy Wilder, ça veut dire que c'est du bon. Le Gouffre aux Chimères, il n'est pas trop connu ce film, j'en ai parlé la semaine dernière, avec Kirk Douglas, Robert Arthur et John Sterling. Ouais, c'est un journaliste qui se retrouve au Nouveau-Mexique et qui va plus ou moins provoquer un espèce de fait divers quoi, pour avoir de quoi grailler. C'est-à-dire de, et en fait, ça va prendre des proportions assez dramatiques. En fait, ça va, tu vois,
un peu trop.
Faire un petit peu effet boule de neige et tout. Bon, au Mexique, un peu dur, quoi. Mais, mais là, Kirk Douglas est excellent, hein, de toute façon, quoi. C'est donc Le Gouffre aux Chimères sur TCM, jeudi prochain à 22h25. Sur Cinéfix, jeudi prochain à 21h, La Femme Guêpe. Un Corman qui est pas dégueulasse du tout, hein. Alors c'est un Corman de 60, donc hein, c'est les films des doubles programmes, les films qui font une heure dix, hein, pas plus quoi. Donc ça se regarde assez rapidement. Suzanne Cabot et Michael Mark dans les rôles principaux de cette femme guêpe. On en parlait justement, hein, de la femme guêpe, quoi, il y a pas si longtemps que ça. Bon ben elle est morte, hein, maintenant chez Marvel, et là ben elle est encore vivante. Quoique ça se passe assez mal pour elle à la fin. Vendredi, pour terminer, sur RTL9 à 20h35, Sale temps pour un flic de Andrew Davis, celui qui nous a fait Nico des années plus tard. Là, il s'agit de Andrew Davis en 84 avec Chuck Norris et Henry Silva. Donc un bon film, il faut toujours qu'il y ait un bon méchant. Henry Silva, généralement, c'est toujours un bon méchant. Un grand classique du film d'horreur, enfin du film horrifique, on va dire, sur Sci-Fi à 20h45, c'est le Tremors de Ron Underwood en 89 avec Kevin Bacon, Fred Ward et Michael Gross. Sur Polar vendredi prochain à 21h, L'affaire des 5 lunes, un film italien de Renzo Martinelli de 2003 avec Donald Sutherland, Giancarlo Giannini et Stefania Rocca. Et sur CinéFX à 21h vendredi prochain, L'île de la terreur, un Terence Fisher de 65 avec Edward Judd, Carol Gay et Peter Cushing. Et on termine par un...
Si je me souviens bien, c'est une histoire avec des nazis morts-vivants, un truc comme ça, c'est...
Sur Orange Ciné Géant, pour terminer, eh bien un grand classique également du cinéma, hein, du cinéma avec un grand C, tel que l'aiment bien les cinéphiles et les critiques avec un grand C. À 21h, Les Misfits, Les Désaxés de John Huston en 61, ouais. C'est pas son meilleur, mais enfin bon, hein, c'est un bon film, ouais, quand même.
Pas mal, hein.
Clark Gable, Marilyn Monroe et Monty Clift, surtout, qui lui, là, dans ce film, est vraiment excellent, de toute
et
façon.
Et film qui a été tourné intégralement en noir et blanc pour des raisons essentiellement budgétaires, mais où les acteurs se détestaient réellement sur le plateau. Tout a été fait pour qu'ils soient à la limite se taper dessus. Petite note agenda juste avant de partir. Benoît Delax sera en dédicace samedi prochain à la librairie Album pour Missy Dominici. Le premier tome s'appelle Infance Zodiacale. C'est un polar médiéval fantastique, médiéval sur tendance religieuse, sur fantastique et tout le reste. C'est chez Vendouest et le jeudi 8 octobre à la librairie Album au bord de l'étoile matutine sera dédicacé par Riff Rebs. Voilà, c'est... Ah, excusez-moi. Et pas près là. Non, c'est pas bon. On zoom. Ma foi, mais c'est le final du sport. T'as un résumé, toi ?
Ah ouais. Tu vois, quand je suis en train d'écrire là, ça veut dire que c'est ta perte qui résume.
Peux-tu faire alors dans ce cas-là le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, je te prie ?
Alors, si vous avez loupé tout ça, n'y a pas de problème. Il va vous le dire après. Mais on avait un trou noir dans Fluide Glacial, on avait un top 10 du film labellisé Adopi, des chroniques de BD au nom imprononçable, des Skrulls qui l'ont dans le baba, des émirs échauffés, une pétition pour Philippe Nikolic et une série culturelle sur Raymond Chandler et Max Schreck.
Non d'une grippe H1N1. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver des chroniques écrites, fouter dans nos archives, jouer à des quiz stupides, voter pour nos top 5 et laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr, supplémentweekend.fr. Et là, c'est que de la joie, que du bonheur. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, je ne saurais vous dire. Théoriquement, on fait émission la semaine prochaine. Donc je n'en sais rien. Par contre, c'est en soirée. Je viens de vérifier. C'est en soirée, la radio du festival. Bruce s'est encore planté. Bon, on verra. Hein. De toute façon, vous écouterez. Allez, ciao, bye. Dans quelques instants, ça c'est du sport.